de la 7e place.
Et à 8h33, les syndicats d'enseignants flamands pas contents après l'annonce du report d'un mois de l'indexation des salaires. Ils demandent une concertation sociale sur cette mesure qui va faire perdre aux profs et à toute la fonction publique un mois d'augmentation. C'est le Premier ministre Bart De Wever qui l'a confirmé hier lors d'une interview accordée à la RTBF à l'occasion des 100 jours de son gouvernement. On va débriefer cette interview, ces 100 jours. L'annonce du Premier ministre qu'il ira au bout de ses réformes et qu'il y en aura d'autres pour redresser le bateau budgétaire belge. Au sein de sa coalition, tous les partis sont-ils alignés avec Bart De Wever? Écoutez, le ministre des Affaires étrangères, l'ex-président des Engagés, Maxime Prévost, il était l'invité de Matin Première.
Les Engagés n'ont pas envie de presser le citron davantage, et donc on est
presse
dans
le citron,
schéma.
Là, vous le reconnaissez?
Ben vous savez, vous ne faites pas à un moment donné d'assainissement budgétaire sans pouvoir effectivement bousculer un peu le statu quo. Mais en même temps, la politique n'a pas vocation à juste entretenir un statu quo.
Les 100 jours de Bart De Wever, les 100 jours de l'Arizona, comment le Premier ministre va-t-il mener son bateau à bon port? Doit-il davantage écouter la rue ou au contraire poursuivre les réformes parce qu'elles sont nécessaires? C'est notre débat du jour, on vous lit, on vous écoute. Laissez-nous un message vocal ou écrit sur WhatsApp 0 471 200 500 pour vous répondre. Ce matin, deux rédacteurs en chef, attention, hein, petit doigt sur la couture du pantalon. On salue Paul Gérard, rédacteur chef de l'Écho. Bonjour Paul Gérard.
Bonjour François, bonjour tout le monde.
Et Dorian Demeyus, rédacteur chef de La Libre Belgique. Bonjour Dorian.
Bonjour François, Demeyus. Bonjour Paul.
Bon, Bart De Wever, leader d'un parti nationaliste qui veut l'indépendance de la Flandre, Premier ministre pas comme les autres, Paul Gérard, qu'est-ce qui vous a laissé comme impression dans cette interview des 100 jours, le Premier ministre ?
Fidèle à lui-même, donc il fait un job dont il n'a pas rêvé. C'est assez marrant, le job de Premier ministre, c'est un peu le job de rêve, le top du top pour un politique belge, a priori, sauf pour quelqu'un comme Bart De Wever, qui est au 16 rue de la Loi, le bureau du Premier ministre, mais qui n'a jamais vraiment voulu ça. Donc il y est sans passion, sans enthousiasme, il est là par sens du devoir, comme il dit. C'est quelqu'un qui a quand même une approche politique construite depuis longtemps, nationaliste flamande. Ce qui l'intéresse, c'est la prospérité et le futur de la Flandre. Ce n'est pas la prospérité et le futur de la Belgique. Et ça fait quand même une grosse différence. Il y a comme un grand écart, quelqu'un qui le compose. Et donc, il déroule un programme qui a été négocié avec d'autres partis, en tant qu'homme fort de cette coalition, mais sans la magie, sans le feu qui va avec... si vous voyez les autres, les précédents, soit ils rêvent tous d'être au 7 rue de la Loi, soit quand ils y sont, ils s'agitent drôlement plus.
Ouais. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de communication tout de même, ce Premier ministre qui est là par sens du devoir, comme s'il n'avait pas le choix, comme si les réformes s'imposaient à lui, Dorian Demeyus?
Un peu, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la campagne, il a dit qu'il voulait être le Premier ministre pour justement réformer le pays et que les élections lui ont donné un mandat clair. Les Belges voulaient une politique de rupture, des réformes. Et donc, il joue un peu là-dessus. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir, et paradoxal, de voir que les difficultés qu'il a à réformer viennent principalement de la Flandre, parce que c'est là qu'il y a des socialistes flamands qui l'empêchent quelque part de dérouler tout son programme, là où les francophones lui ont donné cette liberté. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai, il ne fait pas rêver, il vend du plomb. C'est clairement, il revendique, il le dit, il n'a rien de positif à donner. Et je pense qu'il préfère crever, quelque part, si je peux me permettre l'expression, plutôt que de dire « mais la Belgique ira mieux demain ». Donc c'est vrai qu'il a toujours cette logique, la Flandre, socio-économique, et je pense que ce n'est pas tenable pendant 5 ans. On va devoir avoir un Premier ministre qui, à un moment donné, puisse dire « c'est difficile maintenant, on va prendre des réformes difficiles, il y en a encore qui vont venir », il le dit, mais c'est pour un mieux. Et ça, il ne le fait pas, alors qu'on sent que du côté francophone, les engagés ou les maires essayent quand même de dire « de faire rêver.
Ça manque de souffle, de perspective, cette interview des 100 jours de Bart De Wever, Paul Gérard.
Alors, c'est sûr qu'à la question « quand est-ce que tu mets des paillettes dans ma vie, Bart De Wever ?», la réponse risque d'être pas tout de suite et peut-être jamais. Il n'est pas dans un narratif enthousiaste, encore une fois, sur la Belgique, mais son plan, depuis toujours, en tout cas depuis très longtemps, est tout à fait différent. Il est presque à contre-emploi. Pour le coup, il joue le jeu. Il est respecté par les autres composantes politiques qui ne sont pas nécessairement alignées sur la sienne. Il fait le job en tant que Premier ministre. Il a mis de côté toute une série de rengaines nationalistes, certainement. Mais il ne va pas au-delà d'une certaine limite. On verra bien. Moi, je ne pense pas qu'à un moment donné, il va venir avec un narratif plus enthousiaste. Il laisse les autres le faire. Et finalement, ce qu'il a fait dans ces interviews qui étaient assez semblables de télé en télé, c'est de dire ça va être compliqué. Il prépare le terrain pour la suite. Ça va être compliqué. On a des étapes qui sont pas simples devant nous, et il y en aura encore d'autres. Il avait les éléments de langage, c'est titanesque, les colors de catégorie qui vont suivre derrière ceux qu'on est en train de gravir. Bon, il plante un décor pour dire ça va pas être simple. Et donc de deux choses l'une, il prépare la suite pour lui-même et pour la NVA. Soit il arrive à faire des réformes intéressantes, et alors il pourra dire voyez, on peut quand même faire bouger ce pays dans un sens qui intéresse la Flandre, quand même en partie. Soit ça marche pas et il pourra dire mais je vous l'avais dit, c'est compliqué. Et à ce moment-là, il passera dans une autre posture en 2029 ou un peu avant, qui est celle de bon, puisqu'on peut pas faire marcher ce pays, jouons la carte flamande de façon plus poussée.
Ouais, vous l'avez dit et vous soulevez le principal message politique de cette interview, c'est on a gravi des cols et il y aura d'autres cols à gravir, il y aura d'autres mesures d'économie. Il l'annonce déjà. Est-ce qu'il va réussir à tenir ses promesses, Bart De Wever, à votre avis, Dorian Domenech? Parce qu'on sent les syndicats qui sont toujours chauds. Bouillon, ils annoncent une nouvelle action le 27 juin prochain. Il y a une grogne sociale dont Bart De Wever ne semble pas s'inquiéter, en tout cas pour l'instant. Est-ce qu'il va tenir ses promesses d'assainir les finances publiques de la Belgique, ou bien est-ce que ça va être trop compliqué à cause notamment de la conjoncture internationale?
En cinq ans, il le dit lui-même, ça sera impossible. C'est le terme qu'il utilise. Donc en cinq ans, il n'y arrivera pas. Donc il dit déjà qu'il veut un deuxième mandat. Certains parlent déjà même d'un troisième. Enfin, il faudra vraiment voir ce que les élections donnent à ce niveau-là. Mais donc il annonce déjà des nouvelles réformes qui vont venir. Mais je voudrais aussi rebondir par rapport à ce que disait Paul. C'est vrai, il pense qu'à la Flandre. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il vient du mouvement flamand. Et le mouvement flamand a évolué. Ils ne sont plus seulement dans une logique séparatiste, anti-francophone, ça. Ils sont dans une logique socio-économique où la Flandre doit être forte. Et la Flandre, socio-économiquement, a besoin de la Wallonie. Donc ça, c'est une bonne chose. Et aussi, besoin de Bruxelles. Et là, on sent que Bruxelles commence à être un peu le caillou dans la chaussure des nationalistes flamands, parce que c'est pas tenable. Bruxelles, il ne faut pas oublier, c'est leur capitale. Et donc, il y a cet aspect-là qui quelque
ouais.
part...
Les socialistes disent que l'Arizona et Bart De Wever font payer, et que c'est une manière de réformer le pays, font payer les réformes aux régions, et notamment à la Wallonie et à Bruxelles, en aggravant encore un peu plus les déficits de ces deux régions, dans le Méus.
Oui, enfin, il y a des francophones quand même autour de la table, mais qui ont la majorité et qui disent qu'ils vont quand même pas faire analyser ça.
Ouais. La situation financière des finances publiques wallonnes, bruxelloises et des fédérations est exécrable. Hein. Donc, je veux dire, le bulletin des finances publiques du côté francophone est mauvais, et c'est quand même pas non plus uniquement la faute de la Flandre. C'est un bon cours comme raisonnement.
Sur la posture de Bart De Wever vis-à-vis de la grogne sociale, Paul Gérard, quel est votre regard là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on sent dans l'interview qu'il n'a pas l'air de s'en préoccuper plus que ça. Il dit, bon, on va quand même pas permettre des anomalies ou des situations anormales. Hein. Il parle notamment des femmes qui auraient pris des congés de maternité dans le calcul de la pension. Mais c'est à peu près tout. Le reste, il dit, on maintient le cap, quoi qu'il arrive.
Oui, il dit, ce que nous faisons a une certaine logique. Je crois qu'il doit se dire qu'il y a une majorité en Flandre qui est notamment d'accord avec le fait qu'il faille revoir certaines choses, une réforme du fonctionnement du marché du travail et des allocations de chômage, une réforme sur l'indexation qui ne doit pas être automatique et généralisée de tous les salaires, de toutes les pensions, de toutes les allocations. Il y a une majorité qui est d'accord avec ça. Donc je dis, ben voilà, on vous écoute, hein, il est poli, il est respectueux de la concertation sociale, il le dit, voilà, je vais prendre le temps de l'écoute, mais on va aussi avancer, c'est comme ça. Il fait un peu le gros dos, et il laisse aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a Voreut dans son gouvernement, et donc il laisse aller les différentes composantes au front, en restant au-dessus de la mêlée, dans une posture un peu plus... Dites ce que vous avez à dire, mais nous, on va avancer. Après, sur le budget, sur les finances, il n'y est pas du tout non plus. Il a fait une campagne sur l'ordre et la méthode. On va remettre ce pays en ordre budgétaire. On n'y est pas du tout.
On n'y est pas du tout. Ah ça veut dire que quoi? Dans les colonnes, dans les calculs, pour l'instant, les effets retours sont pas atteints.
On compte sur des effets retours colossaux qui sont un peu... Sinon, on doit mouiller, en tout cas pas évident à situer. On rajoute des moyens qu'il faut encore trouver pour financer un fonds défense, donc on ne sait pas trop comment ça va se faire. Sur la taxe sur la plus-value, on ne sait pas encore exactement quel contour elle aura. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement en ordre, contrairement à ce qui avait été annoncé.
Les calculs du notaire Bart De Wever ne sont pas corrects et ne sont pas à jour pour l'instant.
Non, mais il l'assume et il le dit lui-même. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a une autre petite musique qui monte en Flandre et qu'on perçoit pas toujours du côté francophone. C'est l'absence de grandes conférences de presse ou l'absence de grandes réformes où il peut les annoncer telles quelles. Parce qu'il fait pas de conférences de presse quand il prend des grandes réformes. Fait que on a de plus en plus le sentiment que les grandes réformes annoncées deviennent des petits compromis et finalement l'Arizona qui était annoncé devient une forme de Vivaldi. Et ça, c'est un véritable risque pour le Premier ministre, c'est de pas pouvoir dire voilà, on a réformé telle quelle parce qu'on a tellement détricoté ce qui était prévu que je pense que ça, c'est un risque qu'il commence à percevoir aussi.
Ça veut dire quoi? Que cette coalition, elle vacille déjà? On nous avait promis un gouvernement beaucoup plus solide que la Vivaldi, où on s'en souvient, ça tirait dans tous les sens. On est en train de revivre le même scénario.
Fais attention à ce qu'on dit, parce que vaciller, ça veut dire qu'il risque de tomber. Moi, je pense pas qu'il va tomber. Je pense que tout le monde est conscient de la gravité de la situation, et donc, ils vont devoir tenir pour traverser la tempête.
Mais maintenant, ce qu'on disait déjà pour la Vivaldi.
Oui, tout à fait. Mais maintenant, parmi les réformes qui ont été annoncées, il y a la fameuse taxe sur les plus-values. Ils ne s'entendent pas depuis le début. Hein. C'est vraiment le boulet depuis le début. Avant même la déclaration de politique générale, c'était pas clair. Et c'est toujours pas clair 3 mois après ou 100 jours après. Donc, on sent bien que ces crispations entre partis, entre parfois présidents de partis, ne facilitent pas l'image d'un gouvernement de réforme.
Ouais.
De
en attendant, il est quand même incontesté dans son rôle. Moi, je me souviens qu'à la même époque, Alexandre de se faisait déjà boxer par tout le monde, par une série de présidents de parti de la majorité, mais qui étaient au balcon. C'était encore le cas aujourd'hui, mais pour le moment, il les tient en respect. Il y a une méthode de Weber qui a été critiquée dans la formation du gouvernement, mais qui, dans l'exercice du pouvoir, a l'air jusqu'ici de fonctionner. On ne sait pas de quoi demain sera fait, ni au niveau national, ni au niveau international. Il y a toujours une crise qui vient par la porte ou par la fenêtre. Mais pour le moment, il contrôle les différentes fractions de cette majorité qui considèrent qu'OK, il est respectueux, qu'il joue le jeu, qu'il écoute, qu'il essaie de rassembler, au-delà même de tout ce qu'on pouvait espérer d'un personnage comme Bart de Bever.
Encore une question, et on nous la pose ce matin sur WhatsApp, cette fameuse promesse, qui a été clarifiée d'ailleurs dans l'interview de Bart de Bever, d'avoir un écart de 500 euros entre les travailleurs et les allocataires sociaux. Donc, ce n'est pas 500 euros en plus dans la poche du travailleur, c'est l'écart entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. En gros, 500 euros. Il peut y arriver, ça, Dorian Domingues?
Oui, mais c'est à terme, hein. Donc ça, c'est clairement à terme. Ouais. Mais
c'est pas déjà le cas aujourd'hui.
J'ai jamais compris cette idée que ceux qui travaillaient allaient gagner 500 euros en plus, parce que ça n'a jamais été dit tel quel. Ils ont toujours assumé que c'était l'écart entre les deux. Ici, il a clairement dit, mais dans votre émission avec Béatrice Delvaux, on a plusieurs fois répété que c'était... Certains les y perdent, c'est la fameuse carotte et le bâton. Hein. Ouais. Certains y perdent, d'autres y gagnent. Et l'écart, il fait. Mais c'est un écart qui existe quasiment déjà hein, dans les faits. Donc c'est quelque chose, c'est une promesse finalement assez facile. On est dans l'ordre du symbole ici.
Est-ce qu'on va y arriver, non pas en augmentant les salaires, mais plutôt en diminuant les allocations sociales? Et ça, c'était peut-être pas dans les promesses avant les élections, Paul Gérard.
Mais il n'y a pas de réponse à cette question à ce stade. Hein. Il y a plein d'éléments qui sont encore des points d'interrogation hein, au jour d'aujourd'hui. Sur les recettes futures, sur les dépenses futures aussi. Ça dépendra de l'activation, la mise à l'emploi. C'est un projet depuis longtemps de ce gouvernement-ci et des précédents. On verra bien quels seront les faits réels et qu'est-ce que ça rapportera aux caisses de l'État. Et donc, entre sortie et rentrée, il y aura à un moment donné une marge de manœuvre pour peut-être atteindre ces 500 euros sans taxes supplémentaires au-delà de cette fameuse taxe sur les plus-values qui déchire la majorité, on le voit bien, et peut-être sans le niveau de recette attendu à ce stade. Il y a un côté bouteille à l'encre. Quand même.
Il faudra aussi voir quelles sont les crises éventuelles que ce gouvernement devra gérer dans les mois et les années
comme
à venir.
Gouvernement,
comme tout gouvernement, on l'a vu notamment avec le Covid lors de la précédente législature. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir débriefé ces 100 jours de l'Arizona. Il y avait Dorian Domingues de la Libre en Belgique et Paul Gérard de l'Écho. Merci à vous deux.